Je voudrais juste lire encore quelques versets. En effet, ce week-end, nous avons eu particulièrement à l'esprit ou dans le cœur le prophète Ésaïe. Et je voudrais encore une fois lire quelques versets d'Ésaïe 44 avant la prière. Ésaïe 44, du verset 24. Ainsi a parlé le Seigneur, Ésaïe 44, verset 24. Ton Rédempteur, qui t'a formé dès ta naissance. Je suis le Seigneur qui opère toutes choses, qui ai étendu les cieux, moi seul, qui ai déployé la terre, qui était avec moi. Verset 26, j'anéantis les signes des prophètes de mensonge et je proclame insensé les devins. Je fais reculer les sages et je retourne leur science en folie. Verset 26, je confirme la parole de mes serviteurs et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Ô gloire au Seigneur. Nous en avons déjà entendu parler ce matin. Je promets de Jérusalem, elle sera de nouveau habitée. Et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je relèverai leurs ruines. Verset 27, qui dit à l'abîme de la mer, assèche-toi, et je tarirai tes flots. Verset 28, qui dit de Cyrus, il est mon berger, et il exécutera toute ma volonté, ordonnant pour Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et pour le temple qu'il soit fondé de nouveau. Ce sont là de glorieuses paroles de Dieu, et chaque déclaration que Dieu a faite, chers frères et sœurs, peu importe le temps que cela prendra, chaque déclaration s'accomplit. Et nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir croire comme des enfants et de nous réjouir de chaque parole que notre Dieu a prononcée. Et pour cela, nous voulons le louer et exalter son nom. Je l'ai déjà dit au début, nous voyons où nous préférons voir ce que Dieu accomplit de nos jours. Et cela nous donne tant de courage, tant de consolation et tant de confiance que nous ne pouvons pas nous empêcher d'élever son nom. Levons-nous maintenant et prions ensemble. Père céleste, nous te remercions à nouveau cet après-midi encore pour ta sainte et précieuse parole. Nous te remercions également pour chaque chant. Nous te remercions pour tes paroles, car toi, notre Rédempteur, tu nous parles. Tu as parlé dès le début et tu as tenu ce que tu as dit. Et tu es encore à l'œuvre aujourd'hui pour accomplir ce que ta bouche sainte a dit. Nous te remercions sincèrement, ô Seigneur, pour tes paroles glorieuses et pour tes précieuses paroles qui nous ont été laissées. Nous ne pouvons nous empêcher de louer ton nom et de t'adorer. Et nous te prions ardemment, Seigneur, de nous bénir cet après-midi. Aussi, bénis notre cher frère. Ô Seigneur, fais couler abondamment ta parole à travers son cœur et ses pensées. Ô Seigneur, afin que nous la recevions et que nous la croyons de tout notre cœur. Seigneur, nous te remercions et nous t'adorons au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes reconnaissants pour sa présence, pour ses paroles et pour son action. Pour toutes ses paroles et comme cela a déjà été souligné, des milliers d'années se sont écoulées et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Les prophètes ont cherché à savoir quel temps l'Esprit indiquait en eux lorsqu'ils ont prononcé tout cela. Et nous pouvons vivre en ce temps d'accomplissement. C'est en effet le temps le plus puissant de tous. Vous savez qu'aujourd'hui, dans ce pays, nous avons un grand jour de décision. Et on ne peut pas s'empêcher, en tant que citoyen d'un pays, de réfléchir à ce qui se passe sans avoir de préjugés politiques. C'est une profonde douleur qui peut s'emparer d'un être humain quand on voit la situation politique. Et surtout quand on repense à tout ce qui s'est passé il y a 50 ans et certaines choses ont beaucoup de similitudes entre elles. Beaucoup de similitudes. Mais quelle que soit la situation, une chose est sûre. Dieu ne permettra que ce qui est dans sa volonté et qui doit être réalisé conformément à son plan pour cette époque. Certes, nous pouvons aussi lui exprimer nos désirs dans la prière, mais je me suis surpris à déposer une certaine chose au Seigneur dans la prière. Et lorsque j'ai terminé, j'ai dit, Seigneur, tu sais que je n'ai fait qu'exprimer mes désirs. Je dois te laisser le soin de faire et de permettre ce que tu veux quand tu le veux. Nous pouvons exprimer des souhaits tout en étant certains que la volonté de Dieu se réalisera. Je ne sais pas si tous les hommes du passé avaient une vue d'ensemble de ce qu'ils faisaient, si les gens le savaient. Et quand nous pensons à ce qui s'est passé dans notre pays, nous pouvons tourner le visage vers la terre et avoir honte aujourd'hui encore. Et puis un prophète de Dieu vient et dit littéralement, le cinquième sceau devait s'accomplir et la mise à mort des Juifs devait avoir lieu. Qui peut changer cela? Quand nous pensons que Hindenburg a tendu la main à Adolf le terrible le 30 janvier, il y a exactement 50 ans maintenant, et lui a pour ainsi dire déjà donné le feu vert avant même que l'élection n'ait lieu le 5 mars. Il ne savait pas du tout ce qu'il faisait. Il a remis le pouvoir à un criminel qui a ensuite été légitimement élu le 5 mars 1933. Mais que s'est-il passé? La parole de Dieu s'est accomplie sous nos yeux. Nous pouvons en penser ce que nous voulons. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une seule obligation, et c'est de penser au-delà des frontières nationales, dans les limites de la parole de Dieu. Et en 1932, j'avais toujours supposé que c'était 1933, mais c'était en 1932 quand le Seigneur a révélé à Frère Branham que Franklin Delano Roosevelt, toujours abrégé en D, qu'il serait élu et que l'Amérique déclarerait la guerre à l'Allemagne, et pas seulement cela, mais que l'Amérique s'endetterait et donnerait l'occasion à la Seconde Guerre mondiale d'éclater. Nous sommes tous assis là à nous étonner et à ne pas savoir que Dieu a révélé de telles choses à un prophète là-bas au-delà de l'océan. Et celui qui avait déjà été élu début novembre 1932 a été intronisé président des États-Unis par Herbert Hoover le samedi 4 mars. Et que s'est-il passé? Les banques étaient toutes fermées. Et il y a eu un boycott de l'économie et l'économie s'est effondrée. Manipulée ou non, dans tous les cas, l'occasion a été donnée. La pierre s'est mise à rouler. L'histoire du monde a été faite. La fin des temps a été lancée. Et c'est justement à cette époque que Dieu a fait surgir un prophète, notre bien-aimé frère Branham, qui lui aussi n'a pas seulement annoncé l'histoire du salut, mais en a vécu une grande partie et qui a pu dire au peuple de Dieu à cette époque ce que le Seigneur avait décidé dans ses paroles. Tous les royaumes du monde doivent finalement être soumis à Dieu. Il établit les rois, il dépose les rois. Et vous savez, j'ai rencontré l'ex-chancelier, le chancelier Schmitt, il y a exactement 5 semaines. Je lui ai parlé et il était tellement, tellement déprimé. Il a dit, fini, fini pour toujours. Je n'en peux plus et je ne continue pas. Et j'ai pensé à moi-même pendant un instant, pourrais-je seulement dire la même chose, c'est fini, je ne continue pas. Et l'instant d'après, je me suis dit, non Seigneur, non, tant que tu le veux, je suis prêt à continuer. Les politiciens sont élus et désavoués, mais quand on est appelé par le Seigneur, les gens n'ont pas de veto. Soit ils acceptent, soit ils refusent. Ils écoutent ou n'écoutent pas, l'un ou l'autre. Le Seigneur dit au prophète Jérémie, « Va, prêche-leur, qu'ils écoutent ou non, mais qu'ils sachent qu'il y avait un prophète parmi eux. » Voyons maintenant comment cela va se passer. En tout cas, une autre partie de l'histoire de la fin des temps va se dérouler devant nous. Je crains que tout n'aille plus vite que prévu, mais Dieu veillera sur tout, en particulier sur son peuple, et il nous éclairera et nous fera savoir tout ce que nous devons savoir. C'est là mon assurance absolue. Après la révélation de sa volonté et de sa parole, Dieu ne nous laissera plus dans l'obscurité, mais pour tout ce qui se passe encore maintenant, il nous éclairera par sa parole et par son esprit. Nous l'avons déjà entendu dans la parole d'introduction. Il est écrit ici, Ésaïe 44, verset 26, qui réalise la parole de ses serviteurs et accomplit le dessein annoncé par ses messagers. C'est le Dieu Tout-Puissant. Il a annoncé, il veille sur sa parole. Et quand 100 000 ans se sont écoulés, quand Dieu a décidé quelque chose, il l'exécute. Au chapitre 45, il est écrit au verset 2, Ésaïe 45, verset 2, « Je marcherai moi-même devant toi, j'aplanirai les sentiers tortueux, je ferai sauter les portes d'airain, je briserai les verrous de fer. » Verset 3, « Je te livrerai les trésors cachés dans les ténèbres et les choses précieuses bien cachées, afin que tu saches que c'est moi, le Seigneur, qui t'ai appelé par ton nom, le Dieu d'Israël. » Nous pourrions continuer à lire ici. C'est à cela que l'on devrait reconnaître que Dieu est un Dieu personnel et non un Dieu qui est lointain. Et vous savez bien qu'il y a environ 6000 fois, si les gens ont bien compté l'expression « le Dieu d'Israël » dans la Bible. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, encore et toujours encore. Il n'y a pas une seule fois le Dieu des Allemands ou le Dieu des Français ou le Dieu des Russes ou le Dieu des Américains. Il est toujours écrit le Dieu d'Israël. C'est ainsi que le Dieu d'Israël a parlé. Dieu était personnellement lié à Israël par élection d'Abraham, Isaac et de Jacob et a pris personnellement la responsabilité pour eux. Il est devenu le Dieu d'Israël. Bien-aimé, il est devenu notre Dieu. Un Dieu personnel en Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre Dieu était très, très loin de nous, mais en Christ, il s'est rapproché de nous Il est devenu notre Dieu. Et il dit, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Vous serez pour moi des fils et des filles. Une relation personnelle. Dieu avait fait l'alliance avec Abraham, l'avait confirmé avec Isaac, l'avait réalisé par Jacob. Et c'est ainsi qu'il a annoncé l'histoire du salut et l'a réalisé au fil du temps. Dieu ne s'intéresse qu'à ceux avec qui il peut avoir une communion personnelle. Et cette communion personnelle ne peut avoir lieu que pour celui qui reconnaît sa révélation personnelle en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Vous savez bien que beaucoup de gens cherchent Dieu partout et ils disent avec un très beau sourire, Dieu est bien partout. Dieu se révèle bien où il veut et partout. C'est joliment dit. La question est de savoir si c'est vrai. Dieu est omniprésent. C'est vrai. Mais nous devons comprendre une chose. Dans l'histoire du salut, il ne s'agit pas pour Dieu de savoir s'il se trouve dans l'univers, mais si nous l'avons trouvé comme Seigneur personnel en Jésus-Christ. Car c'est en Christ que Dieu lui-même s'est manifesté et c'est seulement en lui que la réconciliation de Dieu avec l'humanité a eu lieu. Et c'est seulement par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous pouvons être sauvés. C'est pourquoi nous pouvons dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Pas seulement un Seigneur et un Dieu, mais « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mon Rédempteur, mon Sauveur, mon Sauveur, mon Roi, mon Seigneur, mon Guérisseur. Dieu est entré dans une relation personnelle avec l'humanité en devenant homme en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et depuis, il n'est plus lointain, il est proche. Et nous devons, du point de vue divin, voir une fois pour toutes la conclusion de l'alliance sur la croix à Golgotha, comme il se doit, et nous rendre compte que le Tout-Puissant en sortira malgré tout vainqueur. Celui qui ne croit pas ce que Dieu a dit le fait passer pour un menteur. C'est écrit. Et il est également écrit, Dieu seul est véritable, bien que tout homme soit un menteur. Nous devons décider ce que nous voulons croire. Si nous pouvons et voulons croire les mensonges de l'ennemi, ou si nous pouvons et voulons croire Dieu sans restriction pour la parole de Dieu. Si nous voulons croire Dieu sans restriction. Et le Seigneur alors nous appelle alors. Ne crains pas car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Combien de fois devrons-nous encore demander à Dieu de nous laisser être sa propriété alors que nous le sommes déjà depuis longtemps? Combien de fois devrons-nous demander à Dieu de nous faire grâce alors qu'il nous a déjà fait grâce depuis longtemps? Combien de temps allons-nous repousser l'œuvre de la rédemption accomplie? Où sommes-nous prêts à la recevoir maintenant par grâce afin que Dieu puisse se révéler à travers l'Église rachetée comme il s'est révélé dans le Rédempteur? Et en effet, autrefois, notre Seigneur a dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Bien-aimés, je l'ai déjà dit ici mercredi, la guérison de cet unique homme paralysé à environ 40 kilomètres de Tokyo, a renforcé ma foi de manière improbable. Un homme qui, à cause de la bombe de d'Hiroshima, de ses effets, de tout, était depuis assis par terre et ne pouvait plus utiliser ses jambes. Maintenant, vraiment une image de misère. Mais je dois aussi vous dire que ce n'était pas du tout ma réflexion, ce n'était pas mon effort, je n'avais pas besoin de m'impliquer dans quoi que ce soit. Il me suffisait de suivre docilement la direction, la conduite du Saint-Esprit et de laisser Dieu lui-même agir. Oh, c'est quelque chose de merveilleux. Lorsque l'homme n'est plus du tout en jeu, mais que la main de Dieu peut se reposer sur nous et que nous pouvons voir comment la main de Dieu est alors en mouvement pour la bénédiction et le salut des autres. Ce n'est alors plus nous qui faisons quelque chose, mais le Seigneur qui a tout fait par grâce. Ésaïe 45, verset 2. Je marcherai moi-même devant toi. J'aplanirai les sentiers tortueux. Je ferai sauter les portes des reins. Je briserai les verrous de fer. Verset 3. Je te livrerai les trésors cachés dans les ténèbres. Il en est ainsi. Ce qui avait été caché, ce que personne ne savait, ce qui était voilé, mais qui dans les derniers jours a été révélé, dévoilé, amené à la surface, afin que nous puissions, en tant qu'enfants de Dieu, manger la manne cachée de la parole de Dieu révélée, afin de devenir spirituellement fort et de pouvoir aller de l'avant. Et peut-être, il y aura-t-il encore devant nous des jours qui ne nous plairont pas. Mais nous faisons tout par la foi en notre Seigneur. Et nous lui laissons le soin de choisir les chemins qu'il nous conduira. Et si un jour nous devrions en arriver à mourir pour celui qui a donné sa vie pour nous, ce serait un point d'honneur pour tous ceux qui croient de tout leur cœur. S'ils devaient aussi sceller ainsi leur témoignage, à cause du nom du Seigneur. Pour moi, en tout cas, si les choses restent telles qu'elles sont, aujourd'hui, ce serait le plus beau cadeau que Dieu pourrait me faire. À la fin de ma course, même si j'aimerais déjà vivre le jour de l'enlèvement sans mourir, je veux tout aussi bien l'admettre. Mais Dieu le sait. Je n'ai aucune crainte dans mon cœur, car je sais que mon Rédempteur est vivant. Et je sais que aussi sûrement qu'il est ressuscité d'entre les morts, tous ceux pour qui il est mort ressusciteront d'entre les morts, seront semblables à lui et verront sa face. La rédemption ne dépend pas de tes petites choses ni des miennes, mais de l'œuvre de notre Dieu lui-même qui a été accomplie sur la croix à Golgotha. Et nous ne voulons pas minimiser cette œuvre de Dieu. Je voulais encore lire très brièvement, parce que mes yeux se sont posés dessus, deux passages qui semblent concorder sans que je les aie cherchés. Le premier dans 1 Samuel 16, à partir du verset 14, et ensuite aussi particulièrement le verset 22. Et pardon, 1 Chronique 16, du verset 14. 1 Chronique 16, verset 14. Il est dit ici, lui le Seigneur est notre Dieu. Sur toute la terre s'exerce ses jugements. Verset 15, il se souvient de son alliance éternellement, de la parole qu'il a donnée pour 1000, qu'il a ordonnée, pour 1000 descendances, verset 16, de l'alliance qu'il a conclue avec Abraham et du serment qu'il a fait à Isaac. Verset 17, qu'il a confirmé pour Jacob comme statut et pour Israël comme alliance éternelle. Verset 17. Nous devons comprendre une fois pour toutes que Dieu est fidèle et qu'il le restera. Si nous regardons l'histoire aujourd'hui, nous voyons un peuple d'Israël qui est revenu chez lui après tant d'années. Dieu les a ramenés sur la terre promise parce qu'il a fait alliance avec ce peuple. Toutes les circonstances jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale ont contribué à faire en sorte que les frontières, que tout se passe comme cela devait se passer pour la fin. Dieu connaît toutes les choses mieux que nous ne pouvons les connaître. Puis il poursuivit au verset 18, lorsqu'il dit, je te donnerai Cana, le pays que je vous ai assigné en héritage. Maintenant, le verset 22. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Vous verrez que cette parole, ne touche pas à mes oints, est écrite exactement dans la même version au psaume 105. Nous allons lire le psaume 105 du verset 12. Psaume 105, verset 12. À cette époque-là, ils étaient peu nombreux. Ils n'étaient que des hôtes dans le pays. Ils allaient d'une nation à l'autre, d'un royaume à un autre peuple. Verset 14. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Il châtia des rois à cause d'eux. Verset 15. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Bien-aimés, ce ne sont pas seulement les prophètes, mais tout le peuple de Dieu qui était sous l'onction du Saint-Esprit parce qu'ils ont reçu par la foi la parole inspirée et donnée par l'Esprit. Et nous devons et pouvons nous attendre à ce que l'Église soit maintenant placée sous l'onction du Saint-Esprit à la fin des temps en tant qu'Église tout entière. Il ne suffit pas de savoir Dieu a eu un prophète et a parlé par lui et l'onction a reposé sur lui. Cela ne suffit pas. Il faut en arriver à un accord total entre Dieu et son peuple. Et il est encore écrit, l'onction vous instruira de toutes choses, vous enseignera toutes choses. 1 Jean 2, verset 27. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, car l'onction vous enseignera. Qu'est-ce que c'est? Le même Esprit Saint, la même onction qui reposait sur les prophètes, sur le Seigneur, sur les apôtres, sur l'Église. La même onction a reposé sur le prophète de Dieu en ces derniers jours. Et cette même onction doit reposer et reposera sur toute l'Église. Parfois, j'ai eu l'impression, et beaucoup aussi, que Frère Branham était un prédicateur très calme. Il n'a pas, comme d'autres, exécuté tant de choses. Il restait derrière l'estrade, là où d'autres s'agitaient et manifestaient leur force. Mais j'ai alors compris qu'il ne s'agissait pas d'une démonstration de force de la part d'un homme, mais de la manifestation de la puissance de Dieu et de la prédication de ce pourquoi Dieu l'a envoyé et qu'il n'a besoin que d'une seule bouche pour pouvoir parler lui-même à son peuple. Nous allons certainement vivre la même chose. Vous ne verrez pas quelqu'un sur la plateforme être béni et utilisé d'une manière particulière. Non. Le peuple de Dieu tout entier sera convoqué et l'alliance que Dieu a conclue avec nous lors du sacrifice est une alliance éternelle et tous y ont part. En effet, sans la sortie du peuple d'Israël, aucune alliance n'aurait été possible, car où aurait été le peuple avec lequel l'alliance aurait pu être établie? Ce n'est qu'après la sortie du peuple que l'alliance a pu être conclue. Bien-aimés, Dieu appelle à sortir. Il fait sortir pour ne pas conduire à nouveau à un nouvel esclavage et à une nouvelle captivité spirituelle, mais pour faire entrer dans la liberté divine des enfants de Dieu tous ceux qui naissent de Dieu et sont appelés à sortir. Nous le savons, après chaque réveil, de nouveaux cercles ont toujours été créés. Au début, toujours des cercles. Et ces cercles ont ensuite entouré les gens. Et les cercles sont devenus des cages. Et des cages en cages. Cela a continué encore et encore. Et à la fin, comme le dit le prophète, tout le monde est pris dans des cages et il roucoule comme des colombes et il se cache dans ces trous. Et il se cache dans des trous. Qu'est-ce que c'est? Tout cela appartient au passé. Personne n'a le droit, après l'appel à sortir de l'église du Dieu vivant, de refaire une cage pour y asservir les gens. Au contraire, nous avons été placés sous la conduite directe de l'Esprit. Et la même onction qui était sur les prophètes sera sur tous ceux qui ont accepté le message prophétique. Et ils n'ont plus besoin d'un frère ni d'un frère Franck qui vienne encore leur dire quelque chose qu'ils voudraient leur faire comprendre. Non. Ce n'est plus nécessaire. La clarté divine vient du ciel sous la proclamation de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous a été adressée à tous par une bouche directement appelée. Et nous n'avons aucun doute à ce sujet. Dieu a parlé personnellement à son peuple par la bouche de son prophète. Si nous pensons maintenant aux prédications, le signe et à bien d'autres, nous savons de quoi il s'agit. D'abord le sang, puis l'esprit et la vie reviennent à l'église rachetée par le sang. Le sang divin, une église de Dieu appelée à la vie, et l'Esprit de Dieu qui descend pour donner la vie divine à cette église. À cette église. Bien-aimés, nous l'avons souligné. Le sang, la parole et l'Esprit. Puissent ces trois choses être placées au centre de la prédication. Et Dieu ne laissera manquer de rien. Combien d'entre nous peuvent croire que Dieu achèvera son œuvre? Combien peuvent croire qu'il l'achèvera avec toi personnellement? Amen. Il ne peut en être autrement. Si nous ne sommes pas restés assis sur nos oreilles pendant toutes ces années, mais que Dieu nous a fait la grâce d'entendre sa parole, alors une foi vivante doit être née, car la parole est vivante, Dieu est vivant, et l'Église est une Église vivante. Jésus-Christ, la tête, est une tête vivante, et il ne peut y avoir de membres morts sur une tête vivante. Non, jamais, au grand jamais. Bien-aimé, la chose la plus grande et la plus glorieuse est encore à venir, malgré tout. Et j'ai utilisé cette expression à dessein, malgré tout, encore. Alléluia. Gloire et honneur à notre Dieu. Je voudrais ainsi conclure, mais Dieu ne conclura pas encore, du moins pas aujourd'hui, mais seulement lorsque le temps sera écoulé. Et nous sommes reconnaissants d'avoir entendu la trompette de Dieu ces derniers jours. Nous sommes reconnaissants à Dieu d'avoir entendu l'évangile valable éternellement et plus encore de pouvoir le porter jusqu'aux extrémités de la terre, l'évangile éternel. Il crie à tous, « Laissez partir mon peuple pour qu'il me serve. » Nous ne sommes pas là pour entrer à nouveau dans une prison, mais pour servir librement le Seigneur en tant que troupe ramenée, rachetée, car reçue grâce par notre Dieu. Combien ont saisi par la foi ce qui s'est passé pour nous à Golgotha. Une œuvre de Dieu, une œuvre de rédemption. Notre Seigneur s'est exclamé, tout est accompli. La mort et le diable, l'enfer sont vaincus. Tout est vaincu. Jésus-Christ a été fait péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Il s'est fait fils de l'homme pour que nous puissions devenir fils de Dieu. Il a pris la condition mortelle dans cette enveloppe terrestre afin que nous puissions sortir de cette enveloppe terrestre et revenir et revêtir l'immortalité. Oh, la rédemption est quelque chose de puissant et de grand. Personne n'a besoin de l'aider. Il suffit d'entendre le son de la trompette et de dire, mon Dieu, comme je suis reconnaissant de pouvoir bien entendre des deux oreilles. J'ai entendu le son de la trompette. Je te remercie. Ta réponse est ma réponse. Aujourd'hui, je l'accepte pour moi avec foi. Et vous verrez que si nous en faisons ainsi une affaire personnelle, Dieu pourra aussi se manifester personnellement dans notre vie. Si nous l'entendons seulement dans un sermon et que nous l'oublions ensuite, cela peut passer à côté de nous. Mais si nous l'entendons et que nous nous présentons ensuite devant la face de Dieu dans la prière, alors il fécondera dans ton cœur et dans le mien la parole que nous avons entendue et que nous avons reçue avec foi. Et il suscitera une nouvelle vie dans ton âme et dans la mienne. Et je pense qu'en cette fin de semaine, nous devrions remercier notre Dieu et Seigneur du plus profond de notre être, comme jamais auparavant, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Amen.